Merci. Elsa, est-ce que tu veux mettre le PowerPoint en marche, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, ce matin, je voudrais aborder avec vous un thème qui fait partie de notre vie de disciple. Alors, je n'ai pas inventé tout ça, j'ai repris et je me suis beaucoup inspiré d'un message que j'ai entendu quand j'étais en Angleterre, que j'ai trouvé très pratique. Et donc, j'espère que pour vous, ça vous apportera aussi. Ce message, je l'ai vu aussi comme un début. Et pendant la semaine, je vous propose dans vos groupes de vie de reprendre une partie du message. J'enverrai un petit bout d'un livret qui vous aidera à poursuivre des discussions dans ce domaine. Parce que je pense que c'est très important de l'aborder aussi dans des petits cadres, dans des petits groupes de 2-3, où on pourra en parler ensemble. Donc peut-être avant de parler vraiment du thème, ça concerne notre vie de disciple finalement, ce message, bah, je vais déjà préciser qu'est-ce que c'est un disciple. Parce que peut-être il y en a certains, c'est très clair pour vous, il y en a d'autres, c'est peut-être la première fois que vous venez, donc vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. Et je pense que c'est important que ce soit précis. Donc un disciple, pour faire simple, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui suit un maître en général. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aller à faire ce que fait son maître et qui va aller du coup faire la même chose et le suivre dans un domaine en particulier. En tant que chrétien, on est disciple de Jésus-Christ et ça veut dire qu'on va chercher à faire ce que lui nous dit parce qu'on croit que c'est ce que lui nous demande de faire. Quand Jésus était sur terre, il nous a laissé et en partant, il a dit cette parole. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus nous ayant laissé ça, nous en tant qu'Église, nous voulons faire des disciples. Et du coup, nous voulons faire ce que Jésus nous a demandé de faire, garder ses commandements, les enseigner et nous encourager les uns les autres à marcher dedans. Voilà ce que c'est être un disciple. Donc notre point de référence avant tout, c'est vouloir plaire à Dieu et faire ce que lui nous demande de faire. Donc cela étant dit, Jésus nous a dit une autre parole où il nous encourage à être disciples dans tous les domaines de notre vie. Donc il y a un passage de l'évangile quand Jésus était sur terre où quelqu'un va lui poser une question et Jésus va lui répondre en lui expliquant finalement qu'est-ce qu'il veut dire par être un disciple et puis qu'est-ce que ça signifie de suivre Dieu. Donc ce passage est dans Luc 10. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Cette situation où Jésus il a questionné le professeur de la loi, ça nous rappelle que ce qui plaît à Dieu, c'est que nous vivions chacun domaine de notre vie pour lui et de l'aimer avec tout ce que nous sommes, en tant qu'être humain, avec tout ce que Dieu nous a fait, toutes ces composantes de notre être. Donc on pourrait résumer en disant que dans ce passage, Dieu nous appelle à l'aimer avec notre corps, avec notre pensée, nos émotions et avec nos relations aussi. Donc en tant qu'être humain, vous l'avez sûrement remarqué, pas besoin d'être psy pour le dire, on est formé de plein de dimensions. On est formé d'un corps, d'une pensée, d'une âme, et puis on est en relation à la fois les uns avec les autres, mais aussi on a une relation avec Dieu. Et on est des êtres extrêmement complexes, on s'en rend compte parfois. Moi, je m'en rends compte quand je rentre dans une pièce et que je ne sais plus qu'est-ce que je venais y faire ou qu'est-ce que je venais y chercher. Là, je me dis, il se passe tellement de trucs dans ma tête dans le même moment que du coup, j'arrive plus à arriver à tout gérer à la fois. Ou alors, ce qui m'est revenu en préparant le message, c'est cette fois où j'avais acheté le sapin une année pour l'église, le sapin de Noël. Je l'ai amené et puis il y avait une réunion ensuite. Et en fait, je me suis rendu compte au milieu de la réunion qu'en sortant le sapin de ma voiture, j'avais laissé ma voiture grande ouverte avec mes clés, le contact, le coffre, toutes les portes ouvertes. Grâce à Dieu, on m'a rien pris, on m'a pas volé la voiture. Bon, c'est une vieille Golf, donc ça va. Mais c'est dans des moments comme ça que je me dis, en fait, je suis un être complexe qui a du mal à tout gérer à la fois. Et j'espère que vous vous retrouvez aussi là-dedans. En tant que chrétien, on va souvent parler de cette complexité, mais on va souvent parler de notre dimension spirituelle, de prendre soin de notre relation avec Dieu. Et parfois, on peut avoir tendance, du coup, à laisser de côté d'autres domaines qui sont pourtant importants et sur lesquels Dieu a son regard aussi. On va tendance à beaucoup parler de l'importance de prier, de lire la Bible, d'être en relation avec Dieu de façon quotidienne. Et c'est des choses qui sont très importantes. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais Dieu ne s'intéresse pas qu'au domaine de notre relation directe avec lui. Il s'intéresse à tous les domaines et tout ce qu'on fait de notre quotidien. De plus, comme on est des êtres complexes, on n'a pas des domaines séparés dans nos vies qui n'ont aucune interaction entre les uns et les autres. Tous les domaines sont reliés et on le voit bien que ce qu'on fait dans nos émotions, par exemple, va avoir une incidence aussi sur nos comportements, nos pensées, ce genre de choses. Donc pour nous encourager par rapport à tous ces domaines, dans les groupes de vie qu'on va vivre cette semaine, je vous propose d'utiliser un outil que je vous enverrai, qui va parler justement de comment on gère nos batteries dans ces différents domaines de nos vies, et comment on s'assure que dans tous ces domaines, on cherche la volonté de Dieu, on cherche à l'honorer, et c'est un outil qui est très pratique, qui nous permet d'aller dans le concret. Donc je vous proposerai d'aborder ça ensemble. Le plus important, c'est pouvoir finalement laisser le Saint-Esprit nous parler sur notre vie de disciple et puis aussi de pouvoir s'ouvrir à en parler avec d'autres chrétiens. C'est très important. Donc pour aborder ces domaines, je me suis dit que c'était bien de repartir au point de départ de pourquoi est-ce que finalement Dieu nous appelle à prendre soin de ces domaines-là et qu'est-ce qui s'est passé dans l'humanité qui fait que finalement ces domaines sont compliqués à gérer ou sont peut-être difficiles. Donc si on revient au début de l'histoire, dans la Genèse, on voit l'histoire d'Adam et Ève. Et à ce moment-là, on voit que Dieu avait créé le jardin, avait créé l'homme et la femme. Et puis, ils avaient de très bonnes relations et il y avait tout ce qu'il fallait pour eux dans le jardin. Il y avait une harmonie parfaite et tous leurs besoins étaient comblés. Et on voit qu'au travers du serpent, l'ennemi, il a commencé à avoir une remise en question de qui Dieu était. Puisque le serpent va s'approcher d'Ève et lui dire « Mais est-ce que Dieu a vraiment dit que ?» Et je pense que c'est très important qu'on réalise que souvent, ça commence comme ça, c'est-à-dire que d'abord, l'ennemi va venir et mettre une pensée dans nos têtes. C'est là qu'on voit que tout est relié, parce que c'est là que commence finalement le début d'une mentalité. Il va s'en suivre que du coup, l'homme et la femme vont pécher contre Dieu, en se rebellant contre ce que Dieu a dit, en remettant en cause ce qu'il a dit, et l'homme va se détourner de Dieu pour se centrer sur ce qu'il veut lui et vivre comme bon lui semble. C'est ça finalement le péché, c'est décider qu'on devient son propre maître et que c'est plus Dieu qui est auto-commande, on se rebelle contre lui. Et au-delà d'Adam et Ève, c'est une condition qui s'est retrouvée ensuite pour toute l'humanité. Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est juste, ne pouvait pas tolérer le péché et il a banni Adam et Ève du jardin. En fait, ces chutes, on voit, comme je le disais, a commencé par un mensonge que l'ennemi a commencé à mettre dans leur esprit. Et il fonctionne un peu comme dans Inception. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Tout fonctionne avec une équipe qui va aller dans le subconscient des gens pour aller leur mettre des mensonges en tête ou des idées en tête. Et puis, petit à petit, ils vont aller de plus en plus loin dans les couches de l'inconscient. Et le but va être finalement d'implanter une idée tellement profondément que la personne pense que cette idée vient d'elle-même et va agir, du coup avoir un comportement qui va avoir certaines fins en particulier, qui va aider dans un complot particulier. Je vous laisse voir le film si vous ne l'avez pas vu après. On voit au travers de ça que ce qu'on croit, ça impacte notre comportement. Ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, notre mentalité va diriger notre comportement. Il y a aussi Matthieu 12, 34, qui nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, tous ces domaines sont liés et finalement, ce qui se passe dans notre esprit et ce qui s'est passé à la chute, quand l'esprit humain a été touché, ça a eu un impact aussi sur notre comportement, sur nos corps, nos émotions et nos relations. Adam et Ève ont d'abord été atteints dans leurs pensées avec des mensonges, puis dans leurs émotions, on voit qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont réagi, se sont cachés, ils ont eu honte, ils ont commencé à se sentir coupables, alors qu'avant, ils vivaient en parfaite harmonie. Ils ont eu honte de leur corps aussi, de leur nudité. Ils ont voulu la cacher. Et puis, il y a quelque chose dans leur relation avec Dieu aussi qui a été brisé. Parce qu'ils ont eu envie de se cacher de Dieu et ils se sont mis à le redouter. Et aussi, l'un envers l'autre, leur relation l'un envers l'autre, puisqu'ils ont commencé à rejeter la faute l'un sur l'autre. Et puis, ils se sont cachés l'un de l'autre aussi. On voit que du coup, la chute, le moment où le péché est rentré dans le monde, ça a eu un impact sur tous ces domaines. Alors, grâce à Dieu, il ne nous a pas laissé sans rien. Et il a pourvu en Jésus. Jésus qui est venu sur terre et qui est venu prendre notre place en mourant à la croix et en ressuscitant. Jésus a pris notre place et du coup, il est devenu notre sauveur, notre Seigneur. Le péché qui nous séparait de Dieu, qui nous empêchait de l'atteindre depuis le jardin, Dieu a envoyé son Fils pour que ce péché soit ôté du monde. Et pour qu'en Jésus, en acceptant ce sacrifice, on puisse nous retrouver la relation qu'on avait perdue avec Dieu, l'intimité qu'on avait perdue avec Dieu, mais finalement pas que l'intimité qu'on avait perdue avec Dieu, mais l'intimité qu'on avait perdue les uns avec les autres aussi, ou même tous ces domaines, le corps, les pensées, les émotions, qui puissent être réajustés sur ce que Dieu voulait que ça soit initialement, et pas ce qui en est devenu après, face au péché. Donc le salut n'est pas quelque chose qui est juste pour « je vais aller au ciel », mais c'est un salut qui commence déjà aujourd'hui. Dans la Bible, parfois, le salut, il est traduit par le verbe « sozo », qui veut dire aussi « guérir »,« délivrer », qui ne veut pas simplement dire « être sauvé d'un péché ». Et du coup, ce salut, il veut toucher tous les domaines de notre vie. La vie éternelle, elle a déjà commencé pour nous, qui sont déjà en Jésus, qui avons déjà accepté son sacrifice et sa résurrection. Et on le voit que ça se manifeste de plein de façons. Ceux qui étaient là pas la semaine dernière, mais le mois dernier, quand on a projeté la vidéo du témoignage de Nicolas, il racontait comment justement, par exemple, quand il a rencontré Jésus, il a été délivré de certaines addictions. Dans son corps, dans ses pensées, dans ses émotions, il y a plein de choses qui ont changé. Et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous, par exemple, qui ont vécu des guérisons physiques ou émotionnelles parce que Jésus est entré dans leur vie. Ça ne se fait pas forcément toujours de façon immédiate. Et en tant que chrétien, on voit que toute notre vie, Dieu nous transforme et nous touche et veut nous guérir de plein de choses. Alors pour un peu rentrer dans le concret, pour justement développer cette idée d'être changé de gloire en gloire, c'est pas juste quelque chose de passif dans lequel Dieu nous dit « je vais vous changer ». Il y a le Saint-Esprit qui vit en nous, mais il y a aussi le fait que Dieu nous appelle, nous, à vivre une vie qui le glorifie. Et là, toute la question, c'est comment ? Et comment vivre ces domaines en glorifiant Dieu ? Parce que finalement, Dieu nous rend responsables de ces domaines et nous donne la puissance avec le Saint-Esprit pour pouvoir gérer ces domaines. Alors, on va commencer par parler du corps. Comment glorifier Dieu dans nos batteries physiques ? Avec ces deux passages très importants. Dans 1 Corinthiens 6, « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre état, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et dans Romains 12, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » En lisant ces passages, on voit que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Et du coup, on peut se poser quelques questions. Comment est-ce que je traite le corps que Dieu m'a confié ? Est-ce que je le traite comme un prêt qui ne m'appartient pas ? Et est-ce que ce que je fais avec mon corps amène de la gloire à Dieu ? Est-ce que ça l'honore, ce que je fais ? Une des façons de faire ça, c'est par exemple prendre soin de notre santé. Est-ce qu'on prend soin de notre santé, de celle que Dieu nous donne ? Dans mon travail, je suis souvent amené à rencontrer des personnes qui ont beaucoup de problèmes de surpoids et d'obésité. Et je suis assez étonné de rencontrer des femmes qui vont prendre beaucoup soin d'elles et assez vite se rendre compte qu'il y a un problème. Et souvent, c'est peut-être un problème plus masculin. Il y a des hommes qui attendent très longtemps avant de prendre soin de leur santé. Et je ne suis pas sûr qu'en tant que chrétien, ce soit quelque chose de bon. Alors, mission particulière, je m'inclus dedans. C'est important de prendre soin de nous et de prendre soin du corps que Dieu nous a donné. On peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai une forme de dépendance? Est-ce que j'ai besoin du coup de soigner ça? Est-ce que dans j'ai quelque chose de qui physiquement j'ai besoin d'y revenir, une compulsion? C'est important du coup d'aller mettre ça au travail parce que Dieu veut qu'on soit libre et d'aller trouver de l'aide par rapport à ça. Ça a été mon cas à une époque et j'ai eu beaucoup d'aide pour être libéré et accompagné là-dedans. C'est important d'aller chercher de l'aide. C'est aussi prendre soin de nos corps parce qu'on veut courir la course jusqu'au bout et on veut que Dieu puisse nous utiliser. Si on ne prend pas soin de nos corps, on va avoir du mal à faire ce que Dieu va nous demander de faire. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de rester plus longtemps en forme pour pouvoir faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Sans pour autant, ça peut être le défi pour d'autres, laisser le corps être le centre de nos vies. On vit dans une culture aussi où l'apparence est très importante. C'est une question d'équilibre aussi, de savoir pas mettre mon corps dans une place qui glorifie pas Dieu non plus. On continuera à aborder ça dans les groupes de vie, bien sûr, hein, les choses plus concrètes. Maintenant, pour venir sur nos batteries mentales, au niveau de nos pensées. Je vais lire ce passage dans Philippiens 4. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. » Là, on peut se poser la question de quoi on nourrit nos pensées. Est-ce qu'on nourrit nos pensées de bonnes nouvelles plutôt que de mauvaises nouvelles? Est-ce qu'on passe du temps à penser au fait que Dieu est bon et qu'il donne de bonnes choses? Et qu'est-ce qu'on laisse entrer dans nos têtes? Est-ce qu'on prend soin de nos pensées aussi? Ou est-ce qu'on devrait repenser à finalement ce qu'on laisse entrer dans nos têtes? Ce qu'on regarde ou ce qu'on écoute, ça a un impact sur nos pensées puis ensuite sur notre mentalité. Si on regarde ou on écoute trop de choses négatives, on va finir par penser pareil. Au contraire, si on se nourrit de ce qui est bon, juste, on va avoir une autre façon d'agir et de réagir face à ce qui nous entoure. Si je regarde par exemple beaucoup de programmes qui sont explicites sexuellement, ben mes représentations sur la sexualité vont forcément être marquées par ça. Et après, le risque, c'est que ça devienne quelque chose où je vais tomber dans le compromis ou insensible, où je ne vais plus observer ce que Dieu me dit, et je vais être plus absorbé par ce que j'ai observé et vu et regardé. Dans mon cas, comme je fais un travail où j'entends beaucoup de choses négatives, puisque les gens me racontent un peu leurs difficultés, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, c'est de passer du temps simple avec des gens que j'apprécie. Ça aide de pouvoir se détendre et de pouvoir vider aussi mes pensées en ayant un temps où finalement je peux souffler. Il y en a ici, vous m'aidez énormément avec ça, merci beaucoup. Et aussi, j'ai un petit traitement où je regarde une série drôle tous les jours. Je regarde un épisode de 20 minutes. Et ça me fait énormément de bien parce que ça m'aide à relativiser sur la vie en général. Que la vie, c'est pas toujours que des problèmes. Il y a aussi des super choses qui se passent. Pour nous poser une question sur ce domaine, je sais qu'à New Day, quelqu'un avait posé cette question que je trouvais très intéressante. Si ce que tu regardes ou écoutes était projeté ici, comment tu te sentirais si jamais c'était dans cette salle? Si jamais ça vous mettrait mal à l'aise, il faut peut-être se poser la question de l'impact que ça peut avoir du coup sur nous dans le privé, on va dire. Je vous laisse avec cette question, je me la pose à moi aussi. Pour venir maintenant sur nos batteries spirituelles, avec ce verset de psaume, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » On voit dans ce psaume David qui crie à Dieu, qui a ce besoin profond de Dieu. Est-ce que notre esprit, qui a besoin constamment d'être nourri, est-ce qu'on le nourrit suffisamment? Sachant qu'on a été créé pour avoir une relation quotidienne avec notre Créateur, avec celui de qui on tire toute notre vie. Est-ce que comme les disciples de Jésus, on peut dire « Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Est-ce que c'est face à Dieu et à Jésus que je puise ma vie et la vie éternelle? Est-ce que je nourris ma relation avec Dieu seulement 2 heures le dimanche pendant le culte? Ou est-ce que je la nourris au quotidien, en passant du temps avec Dieu, en priant, en lisant sa parole, en passant du temps avec des frères et sœurs chrétiens? Est-ce que j'ai confié les rênes de mon quotidien à Dieu? Et est-ce que je suis en dépendance totale à lui dans cette relation-là? Ou finalement, est-ce que je considère Dieu comme un bonus que j'appelle seulement quand ça ne va pas, quoi? Ou est-ce que j'ai une relation quotidienne avec lui? Et puis on va parler maintenant du domaine de nos émotions. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On voit que Dieu est un Dieu qui a des émotions, et Jésus aussi. On voit sur terre, Jésus a manifesté des émotions comme la tristesse quand il pleurait pour la mort de Lazare, ou quand il était en colère dans le temple avec les marchands. J'ai trouvé cette image très intéressante qu'a donnée Simon Holly récemment, qui est un responsable d'église en Angleterre. Les émotions sont un peu comme des enfants en bas âge. On veut ni dans la voiture les mettre dans le coffre, ni les laisser au volant. Et je trouve ça très intéressant pour nous. Peut-être certains d'entre nous, on a plus besoin de sortir les émotions de notre coffre. C'est peut-être, encore une fois, typiquement masculin. On a vraiment besoin, parfois les hommes, nous, d'oser sortir les émotions du coffre, parler, sortir de notre caverne, et puis aller dire ce qui se passe, ce qu'on vit intérieurement. Et puis pour d'autres, peut-être, ça va être le contraire, il va falloir lâcher le volant, laisser Jésus être au contrôle et pas laisser juste les émotions prendre le contrôle de nos vies. Donc on peut se poser la question, est-ce que je vis mes émotions avec Dieu, comme David qui le faisait dans les psaumes? Est-ce que j'accepte mes émotions? Est-ce que je les enfouis? Et est-ce que je connais aussi mes limites émotionnelles? Je sais quand quelque chose va être trop pour moi et je sais m'arrêter avant. Je sais dire là, il faut que je m'arrête avant que ça aille plus loin. Moi, j'ai vu que Dieu m'a beaucoup appris là-dessus. J'étais quelqu'un qui intériorisait beaucoup les choses et Dieu m'a beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver à dire, solliciter quand il y a besoin d'aide. Et c'est tellement important et ça apporte un tel soutien aussi quand on verbalise ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, je pense que c'est très sain aussi de pouvoir apprendre à gérer nos émotions avec Dieu au travers de nos relations aussi. Et puis, dernier point sur nos batteries plutôt relationnelles. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Dieu nous place dans une famille naturelle et dans une famille qui est l'Église. Comment est-ce qu'on prend soin, du coup, de nos relations clés, de ces relations très importantes dans nos vies? Est-ce qu'on s'assure d'exprimer notre affection avec les gens autour de nous? Pas juste le prendre pour acquis, se dire « oui, il sait que je l'aime bien, elle sait que je l'aime bien, oui, il le sait. » Mais est-ce qu'on s'assure d'exprimer notre affection comme Jésus exprime son affection, comme Jésus manifeste son amour? Pour notre conjoint, conjointe, pour nos enfants, pour nos parents, pour notre famille, nos amis, nos collègues, nos camarades, et est-ce qu'on arrive à les aimer comme Jésus les aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on doit pardonner? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on doit demander pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui on a besoin d'avoir une confrontation pour discuter, pour régler un problème? Et aussi la question à se poser, est-ce que j'ai de bonnes limites dans mes relations, des bonnes priorités? Est-ce que j'arrive à bien gérer ces limites entre des relations proches, des relations plus distantes? Par exemple, si je délaisse mon conjoint, ma conjointe, pour passer tout mon temps avec des amis, ben, je n'ai pas mis les bonnes limites peut-être. Et j'ai besoin de reprendre un engagement relationnel que Dieu me demande d'avoir au sein du mariage, par exemple. Donc c'est beaucoup de questions ce matin, j'en ai bien conscience. C'est pour ça que dans l'optique, j'avais l'envie que ce soit des choses qu'on reprenne cette semaine dans nos groupes de vie ou dans des petits groupes de 2 à 3, ça n'a pas besoin d'être formalisé. Mais je crois que c'est important des fois de faire un petit peu de vérification et de se poser ces questions. Alors pour finir, ce que j'aimerais nous dire, c'est que dans ces domaines, on est tous en marche et il n'y a personne qui est arrivé au bout. Peut-être qu'il y en a, vous vous dites, purée, il y a beaucoup de choses à régler. Pas à pas, le Seigneur est avec nous et il va nous aider. Il n'y a personne qui arrive au bout et c'est pour ça qu'on soit chrétien depuis hier, une semaine, 10 ans. Il y a toujours ce processus où Jésus nous sanctifie et nous rend de plus en plus semblables à lui. La vie de disciple, elle continue jusqu'à ce qu'on soit auprès de lui. Toutes ces choses, on ne peut pas y arriver par nos propres forces. C'est par le Saint-Esprit et sa puissance qu'on arrive à le faire. Et c'est en comptant sur la grâce de Dieu, sur le fait que lui va pouvoir et nous donner. Et on sait aussi que ce n'est pas ça qui va nous attirer l'approbation de Dieu et son amour pour nous qui est invariable et inconditionnel. Dieu nous aime parce que Jésus a pleinement vécu la vie que nous, on ne pouvait pas vivre. Et il a acquis pour nous cette justice, cette victoire. Et quand on entre dans la présence de Dieu, c'est au travers de Jésus que Dieu nous voit et de ce qu'il a acquis pour nous. Simplement, Dieu nous appelle à vivre tous ces domaines avec lui. Il a envie que nos vies elles reflètent sa gloire à lui, sa magnificence. Et je crois que quand on marche avec lui dans ces domaines, il y a quelque chose qui se passe, qui est visible, et ça apporte de la gloire à Dieu. Dans ce domaine d'avancer dans le discipulat, quelque part, dans notre vie de disciple, je crois qu'il est vraiment important de se serrer les coudes et d'en parler les uns avec les autres, et d'autoriser des personnes aussi autour de nous avec qui on a confiance, des chrétiens, à parler dans nos vies et à nous dire sincèrement s'ils voient que on a du mal avec un domaine. C'est très important de pouvoir se dire on est chacun responsable de notre vie de disciple et de nous ouvrir à la lumière de Dieu sur ces domaines. Et je crois qu'on a vraiment la chance d'être dans une église où on peut faire ça, où il y a des personnes vraiment de confiance. Je l'ai expérimenté moi personnellement plein de fois, qu'on peut parler de beaucoup de choses avec des gens de l'église, avec des chrétiens matures, et qu'il y a une vraie force là-dedans de s'ouvrir à la lumière de ça. Juste pour citer Jacques 5, « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Donc osons peut-être confier des domaines sensibles à quelqu'un, deux, trois personnes, peut-être lui dire « Tu sais, tu peux prier pour moi par rapport à ça, ça c'est difficile. » Et autoriser peut-être aussi à être redevable sur ce domaine, lui dire « Tu peux me poser la question n'importe quand, de « Tiens, comment ça se passe pour toi, ce domaine de ta vie ?» Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que peut-être on peut se lever pour prier ensemble ? Jésus, merci parce que tu as acquis pour nous cette victoire et cette justice. Et on peut entrer dans la présence du Père sans craindre d'être rejeté parce que tu as tout acquis pour nous. Et c'est une grâce que tu nous fais. On se rend compte aussi que tu nous appelles à une vie qui te plaise et qui soit selon ta volonté. Et Jésus, on veut à nouveau te dire qu'on veut vivre cette vie pour toi, on veut vivre ces domaines-là de nos vies pour toi. On veut ensemble avoir cette force qui vient de toi pour marcher selon ton Saint-Esprit. Et je prie que toi, Saint-Esprit, tu parles peut-être à nos cœurs là maintenant. Peut-être que tu révèles un domaine en particulier, un comportement, une mentalité, peut-être quelque chose, une batterie qui est vide et qui a besoin d'être rechargée là dans cette semaine. Je te prie que tu parles à nos cœurs, que tu nous montres. Peut-être un domaine où on a un peu lâché l'affaire, où on a baissé les bras. Que tu nous parles, que tu reprennes ce domaine, Seigneur, on te le confie. On te demande d'en être un bon gestionnaire avec toi. Peut-être il y en a certains, vous êtes interpellés, vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Peut-être vous posez des questions. N'hésitez pas à venir vous avancer à la fin pour qu'on puisse parler avec vous. Parce que vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de lui, vous avez besoin qu'il vous sauve. On a besoin de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas possibilité de combattre le péché et de plaire à Dieu. Il n'y a que en Jésus qu'on peut trouver cette solution-là. Saint-Esprit, que tu touches encore nos cœurs, que tu viennes parler pendant cette semaine à chacun de nous. Merci pour ta grâce, parce que même si on se plante, tu nous rattrapes, tu nous reprends, on peut repartir à zéro à chaque fois. Il n'y aura jamais de moment où tu diras c'est fini, c'est trop tard. Merci parce que tu nous donnes la force de marcher pour toi. Amen. Si vous sentez Dieu vous parler sur un domaine en particulier par rapport à tout ça et que vous aviez envie qu'on prie pour vous, n'hésitez pas à venir. Ne restez pas tout seul avec tout ça en tout cas. Voilà, passez une bonne semaine chacun.